Bonus.
Trax.
Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors cette fois, nous allons parler du troisième épisode de la dernière saison de Star Trek Lower Decks qui s'intitule « Le meilleur hôtel Nanite » où les membres du pont inférieur vont chasser des nanites dans un hôtel dans l'espace. Beau programme, engage.
Captain's Log. For once, everything's going better than expected.
This is terrible!
I wasn't sure how my junior officers would handle their new promotions.
I don't want to get promoted. I want to stay charmingly insubordinate!
But they've shown remarkable composure.
Run!
Everyone's obeying orders and working in lockstep.
Nobody pull their disruptors.
There's no chaos. Hijinks. Or interpersonal conflict.
Are you sure you broke up?
Yes!
This might be one of the most mature and capable crews in Starfleet.
Let's do this!
Yes, totally, but you are sitting on it backwards.
Damn it!
Working.
Et pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite, enfin en tout cas, on va former peut-être un duo d'élite, puisque je suis avec mon Romulien préféré, Romain Brami. Salut Romain.
Hello tout le monde, hello Guigui.
Alors on aurait dû être un peu plus, on attend Marie-Paul, peut-être qu'elle va se téléporter en cours d'épisode. Bon, on verra bien, on croise les doigts, j'espère qu'elle va nous rejoindre. Sinon bah du coup on va parler quand même malgré tout, sans elle on va commencer le podcast et parler des épisodes l'épisode de la semaine dernière et celui de cette semaine. Donc sans spoiler, qu'est-ce que tu as pensé des deux épisodes de la semaine dernière?
Bah ils sont pas mal, c'est des deux épisodes de ces deux dernières semaines tu veux dire?
Ouais, celui de la semaine dernière.
Voilà, et ils sont pas mal ces deux épisodes, moi je les ai trouvés très divertissants, je trouve que les scénarios sont bien rythmés, je trouve que les histoires A sont souvent intéressantes en fait, on se disait ça au moment de lancer l'enregistrement, on se disait que c'était des... Alors évidemment c'est Lower Decks donc ça va pas très loin dans la façon dont c'est adressé, mais je trouve que les pitchs de base sont plutôt plus intéressants que les pitchs de certaines séries live Star Trek. Donc moi j'ai passé un bon moment, je trouve que les personnages sont bien, pour l'instant ils sont pas trop en boucle, c'est ce qu'on avait beaucoup reproché l'année dernière, de dire que les personnages revivaient un peu toujours les mêmes événements, là je trouve que c'est un peu moins visible. Donc ouais j'ai passé des bons moments, j'ai regardé avec beaucoup de plaisir.
Ouais c'est vrai que je te rejoins complètement, là les personnages ont clairement amorcé une étape d'évolution qui est assez primordiale et qui sera peut-être définitive, parce qu'il faut quand même savoir que cette saison 5, au moment où ils ont commencé à écrire les scénarios, voire peut-être même à enregistrer, je suis pas sûr de ça, mais en tout cas d'écrire les scénarios ça c'est sûr au moins, et ben en fait ils savaient pas que c'était la dernière saison. Et ils ont appris ça en cours de route, en cours de production, et on imagine que le début de cette saison 5, avec l'évolution de ces personnages comme Mariner, Boimler, et aussi Rutherford et Tandy, alors ça tombe bien, malgré tout, parce qu'on se dit c'est dommage que ça s'arrête si vite, etc. Mais malgré tout, la façon dont les personnages sont articulés en début de saison 5, ça pourrait ressembler à une dernière saison. Donc je sais pas quel a été leur plan, on imagine qu'ils avaient un plan qui devait durer plus longtemps que ça. Mais là, le moment où sont les personnages, l'endroit où sont les personnages et leur trajectoire de ce qu'on peut imaginer qu'ils vont avoir dans cette saison 5, qui est donc la dernière, eh ben ça tombe plutôt bien pour une fin de saison, une fin de série, je sais pas ce que t'en penses.
Je me dis toujours, tu sais, à chaque saison, il faut un poster de la saison qui est inspiré d'un des films Star Trek, et dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc cette année, le poster de la saison, c'est le poster de Star Trek 5. Donc je me dis toujours qu'ils avaient au moins 6 films en tête pour pouvoir clôturer, tu vois, les posters et faire le poster Star Trek 6. Je pense que quand tu vois l'évolution des personnages, 6 saisons, ça aurait peut-être été le bon calibre, finalement, parce que tu vois, là, c'est des jeunes officiers, et la dernière saison, ça aurait pu être des officiers expérimentés, prêts à voguer, tu vois, à devenir vraiment des équipages de passerelles ou des choses comme ça. Il y a un symbole dans cette saison, je sais pas si t'as remarqué, c'est la moustache de Boimler qui augmente au fur et à mesure. Donc au début, c'était qu'une moustache, il lui dessinait des petits poils, vraiment des traits, tu vois. Et là, maintenant, dans les derniers épisodes, ils ont rajouté des traits sur sa barbe aussi. Donc tu sens qu'on se dirige vers un Boimler barbu, ce qui est aussi, à travers Sisko et Riker, c'est aussi un symptôme de l'évolution des personnages dans Star Trek, je trouve ça toujours marrant. Quand ils atteignent la sagesse, ils se font pousser la barbe. Mais ouais,
comme nous d'ailleurs.
Comme nous, moi je suis rasé en ce moment, donc j'ai régressé, mais toi oui. Mais voilà, ouais, je pense qu'il manquera peut-être une saison, mais je pense qu'ils peuvent, s'ils ont eu le temps d'amorcer, je pense qu'ils peuvent... ils peuvent conclure, ils peuvent donner une bonne conclusion aux personnages sur cette dernière saison.
Oui, parce que comme je disais, l'endroit où sont les personnages, ça peut se ressembler à une bonne fin, quoi. Comme si ça avait été prévu que ça dure sur 5 saisons, alors que non. Là, ça tombe plutôt bien. Et à mon avis, moi, je pense qu'ils avaient prévu 7 saisons. Et pour moi, il y a un indice assez important dans le générique. C'est qu'à chaque saison, dans le générique, tu vois, quand t'as la menace Borg avec les Romulins, que t'as le Cerritos qui fait demi-tour, à chaque saison, il y avait un truc en plus qui se rajoutait. Tu vois, dans la saison 2, c'était les vaisseaux Pakled. Dans la saison 3, c'était, je sais pas, moi, il y avait aussi des oiseaux de proie Klingon. Ensuite, dans la saison 4, bah, t'avais la sonde de Star Trek 4. Et là, on a en plus la main verte qui vient tout droit de la série classique. On a le piège des Tholiens et on a Viger. Donc, ça fait 3 ajouts. Donc là, moi, j'imagine que la main verte était prévue pour la saison 5, le piège des Tholiens pour la saison 6, et Viger en dernier pour la saison 7, puisque là, l'image était vraiment trop surchargée et la caméra
ouais, là,
est obligée de reculer
chargé, ouais.
un peu. Et du coup, tu te dis, là, ils sont au bout du truc. Et c'est pour ça que ça, si on compte ces ajouts-là, ça fait 7 saisons. Et c'est cohérent, puisque la nouvelle génération du Space Nine, Voyager, ont eu 7 saisons. Et on sent bien que Mike McMahon, le créateur de Lower Decks, a un gros amour pour ces séries-là, et notamment, justement, dans le titre de Lower Decks, qu'il a transformé un petit peu graphiquement pour ressembler à celui de la nouvelle génération, parce que dans la saison 5, je crois que c'est dans la saison 5 justement, de la nouvelle génération, tu sais, t'as des espèces de...
Les flashs derrière.
Ouais, c'est ça, derrière le titre, comme si c'était de la lumière un peu en 3D qui arrivait, et ils ont fait un peu ce clin d'œil là aussi, donc voilà, moi je pense qu'ils avaient 7 saisons en tête à la base et qu'ils sont escamotés de 2 saisons, mais que malgré tout je pense qu'ils vont faire du bon travail parce que bon, même s'ils ont été prévenus un peu en cours de production, j'imagine qu'ils avaient assez de temps pour conclure. Et d'ailleurs il me semble avoir lu une interview qui disait ça justement, que la fin de la série, donc à l'issue de cette saison 5, était une conclusion satisfaisante, mais que potentiellement ça pouvait continuer, comme par exemple la fin de la nouvelle génération. Tu regardes le dernier épisode de la nouvelle génération, tu dis oui, c'est une très bonne fin pour la série, mais malgré tout l'histoire peut continuer. Et là je pense qu'on sera dans la même chose, et surtout qu'ils n'arrêtent pas d'évoquer un après qui peut prendre plusieurs formes. D'ailleurs il y a Tani Newsom qui joue Mariner, qui va être scénariste sur Starfleet Academy, mais aussi qui a pitché une nouvelle série live action comique qui serait un mix entre Star Trek et The Office, on en avait déjà parlé, et qui donc a évoqué qu'à travers ce projet-là, que c'était pas impossible, et on s'en doutait et c'est logique, de voir revoir des personnages de Lower Decks, et cette fois-ci en live action. Donc ça serait une manière de les faire revenir et de continuer l'aventure de Lower Decks à travers cette nouvelle série potentielle qui n'a pas été vraiment complètement validé. Hein. On imagine que pour le moment c'est juste en pré-prod et qu'ils attendent vraiment une validation. Mais qu'il y a même du coup même des rumeurs de films qui sont évoquées. Et j'avoue que moi j'aimerais bien que ça aille dans ce sens-là, c'est sûr. D'ailleurs, s'il y avait un film Lower Decks, tu préférais que ce soit du live action un peu comme dans Strange New Worlds ou un film d'animation pur et dur ?
Ni l'un ni l'autre. Je préférais qu'il n'y ait pas de film, honnêtement. Je pense que le principe de Lower Decks, c'est que ça se finisse par l'équipage qui trouve des postes, en fait, qui mûrissent, en fait, et qui
se séparent
vers d'autres vaisseaux, qui se séparent. Donc moi, la seule fin satisfaisante de Lower Decks, c'est que l'équipage se sépare, en fait, si tu veux. Et partant de là, ça aurait été des super personnages à voir réapparaître dans d'autres séries, plutôt. Moi, j'aurais plutôt imaginé un univers étendu où, tu sais, tu les vois apparaître même dans Star Trek Legacy ou quelque chose comme ça. Ça aurait été marrant de voir des personnages popés comme ça, quoi. Là, dans l'état actuel des choses... faire plus pour faire plus, tu vois, après tu vas te retrouver avec le syndrome Harry Kim un peu, où ils vont être éternellement des Lower Decks, et c'est quand même pas vers ça que nous amène la série à la base,
non, clairement pas. C'est clair que par exemple on parlait de la trajectoire de Boimler avec sa barbe, ouais, franchement là ça va vraiment dans une direction, j'ai juste un petit peu peur que ce soit la même direction que dans Star Trek Prodigy avec Dahl et Gwen, où en fait Boimler qui se rêvait capitaine finalement se rend compte que son destin c'est d'être un excellent second et non pas le capitaine, et que Mariner finalement, alors qu'elle ne se destinait pas à être la capitaine, devienne la capitaine. Mais en fait du coup ça serait un peu redondant avec Prodigy, parce que c'est un peu la même chose.
Ça serait la fin la plus fainéante, ça serait qu'ils deviennent en fait tous les bridge officers du Cerritos, en fait, c'est-à-dire qu'ils restent ensemble.
Ah oui.
Parce que c'est cool qu'ils sont ensemble, mais du coup à bord du Cerritos. Et là, ça, pour moi, ça serait vraiment du... ça serait fainéant, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on imagine une carrière dans Starfleet, en fait. C'est pas du tout ce qu'on nous a vendu dans Classic, Next Generation, etc., etc. Même Riker n'a pas fini Captain de l'Enterprise, quoi. Donc il y a aucune raison que aucun de ces... enfin, peut-être un, que le groupe n'éclate pas, ça serait bizarre, en fait.
Ouais, je suis assez d'accord, hein, parce qu'ils ne sont que, comme tu dis, un peu des sous-fifres, et il n'y a aucune raison que la hiérarchie se dise, voilà, c'est un équipage d'élite qu'il faut absolument conserver tel quel, comme pourrait l'être l'équipage de Kirk, par exemple, dans Star Trek VI, quand il y a cette fameuse mission de faire la paix avec les Klingons, une mission super importante. Là, c'est vraiment le QG de Starfleet qui décide, avec Spock, de réunir l'équipage légendaire, quoi.
C'était d'ailleurs, on l'avait évoqué pour le podcast sur Star Trek de J.J. Abrams, le 2009, c'était déjà un problème, c'était que c'était presque étrange que des cadets se retrouvent ensemble, Bridge Officer, ouais. Tu vois, ça ne faisait déjà pas beaucoup sens dans le film d'Abrams, et je trouverais ça tout aussi regrettable dans le... C'est quand même des carrières dans Star Trek, ça, on nous a toujours vendu des carrières, en fait, et donc il y a très peu de chances de faire toute ta carrière dans le même vaisseau, ça n'a quasiment aucun sens, militairement parlant, donc voilà, je serais assez déçu que ça se termine, tu vois, avec le Bridge Crew qui soit tous les Lower Decks, je trouverais ça vraiment étrange.
Ouais, d'ailleurs, donc t'as évoqué, petite parenthèse, le podcast sur le film de Star Trek de 2009 de J.J. Abrams. Le podcast n'est pas encore sorti, mais il sortira bientôt. Je suis en train de travailler dessus sur le montage, et il est prévu pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Enfin, en tout cas, la date est déjà popée sur le site internet, je me souviens juste plus c'est laquelle. Mais en tout cas, c'est à venir. Et qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre sur Star Trek ? On n'a pas de news, hein, actuellement, c'est plutôt calme, hein.
Sur Star Trek, non, il se passe pas grand-chose. On attend Starfleet Academy. Voilà, on se demande ce qui se prépare pour les 60 ans de Star Trek dans 2 ans, si je dis pas... dans 2 ans, c'est ça, 2026.
Déjà 2 ans, ouais.
Mais non, là, il se passe pas grand-chose. Les news actuellement, c'est plutôt les news des... on vit un peu au rythme des news qui concernent les studios eux-mêmes. Il y a aucun studio qui se porte bien en ce moment. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'il faut suivre plus que Star Trek lui-même, c'est de se demander ce qui va devenir de Paramount Plus, ce qui va devenir de Disney, etc., etc. Comment tous ces grands studios vont évoluer, c'est beaucoup de ça dont dépendra l'avenir de Star Trek finalement.
Ah si, il y a quand même une actualité qu'on n'a pas évoquée qui s'est révélée il y a quelques temps, c'est que Starfleet Academy, alors que la saison 1 n'a pas encore été programmée, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle sera diffusée, on imagine que ce sera à la fin de l'année, en tout cas après l'été, ils ont déjà officialisé une saison 2 qu'ils sont déjà en train de tourner, quoi, en train de préparer. Donc ça, c'est vraiment un peu... c'est un peu étrange, quelque part, de se dire... Enfin, peut-être pas si étrange que ça, parce que vu les sommes qui sont mises en place pour créer ces séries, je me dis, bon, il faut bien amortir. Et donc, au moins, avec une deuxième saison, je sais pas, les costumes et les décors qui ont été construits,
c'est
par exemple.
C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'eux te le vendent en te disant qu'ils trouvent que la première saison est tellement remarquable, tellement extraordinaire qu'ils font une deuxième saison. Dans les faits, c'est plus qu'une série Star Trek par définition. La saison 1 est très chère par rapport à des saisons parce qu'il y a beaucoup plus de setup en termes de studios, etc. Tu peux pas aller tourner dans des studios classiques, etc. Donc il faut construire une passerelle. Alors là, Starfleet Academy, ça sera pas forcément une passerelle, mais en fait, il doit y avoir quand même, j'imagine, des salles de cours, des machins qui font futuristes et tout. Et économiquement, ça fait pas forcément beaucoup de sens de construire tous ces studios pour 5 ou 6 épisodes, quoi. Ça fait même aucun sens.
Ouais, c'est clair. Donc en fait, moi, ce que je me dis, c'est que les deux premières saisons étaient prévues depuis le début, sur le papier, et puis qu'ils annoncent ça comme s'ils renouvelaient un truc en disant « la saison 1 est trop bien, donc on la renouvelle déjà, tant pis, on n'attend pas ». Alors voilà, c'était déjà prévu, quoi.
J'en suis quasiment certain, pour être honnête, mais bon.
Ouais, on verra bien. En tout cas, ouais, moi je suis quand même un petit peu hypé à cause du casting, mais on verra bien ce que ça donne, en tout cas avec les bonnes annonces, parce que par exemple la bonne annonce de Section 31, dont on fera un podcast dessus quand ça sera diffusé, donc fin janvier de l'année prochaine, bon, moi ça me donne pas du tout envie, mais au moins on sera là pour le podcast pour faire un peu de hate watch, comme on dit, et on pourra commenter négativement, parce que je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Je pars avec un a priori négatif, donc si jamais je vous dis que c'est bien, c'est que sûrement que c'est bien.
C'est ça, c'est le paradoxe, c'est qu'on en attend tellement rien de cette série que je me dis que si ça se trouve, ça va être la méga bonne surprise de l'ère Kurtzman finalement. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Méfiez-vous.
Ouais. Bon, on serait pas déçu si ça arrivait en vrai. Bon, ben on va parler de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses en rentrant en zone spoiler ?
Allez,
c'est parti. Red Alert.
Mariner, je trouve curieux que tu n'aies jamais mentionné de petite amie.
Parce que j'en ai pas, Jennifer et moi, on a rompu il y a une éternité. T'es vraiment sûre d'avoir rompu?
Ouais, sûre et certaine. Ok, maintenant que j'y repense, en fait, c'est elle qui m'a larguée. Elle m'a rendu une bougie.
Mon cœur, viens par ici, ça va te plaire. Elle ne semble pas partager ton point de vue.
Il y a des résidus bioniques sur cette lampe. Le gloutonos était là, c'est sûr.
Gloutonos?
J'ai décidé de donner ce nom aux nanites puisqu'elles arrêtent pas de manger.
Oh, c'est adorable.
Le scan indique que l'essaim est...
Le gloutonos!
Désolée, le gloutonos a consommé le système électrique de ce véhicule.
Il semblerait qu'il récolte du matériel et de l'énergie pour l'autoduplication.
Ça veut dire qu'on peut l'attirer avec une cellule énergétique. Je reviens tout de suite. Elle croit qu'on est toujours ensemble, c'est dingue.
Elle a peut-être un parasite dans le cerveau.
Ah ouais?
Non, je l'ai entièrement passé au scan, y'a rien.
Oh, je suis si contente de me remettre à scanner.
Warning. Un hôtel exotique de nanites, je sais plus exactement c'est quoi le titre VF, mais en tout cas, il a été écrit par Stephanie Amantritter et réalisé par Brandon Williams. Donc voilà, c'est un épisode assez random, quelque part. On voit le retour de Tendy, mais c'est pas vraiment, comment dire, l'angle de l'épisode. C'est vraiment une histoire où on se rend compte que Mariner, qui pensait avoir rompu avec Jennifer, donc sa petite copine andorienne en saison 3, elle a l'air de Jennifer de trouver qu'ils sont toujours en couple, même s'ils ne se sont pas parlé depuis longtemps. Et elle se rend compte de ça en étant dans une mission où elle est sur une espèce de gigantesque paquebot, une station stellaire qui se promène dans l'espace, station balnéaire un petit peu et tout, et qui est aussi grosse qu'une lune. Donc on peut, c'est un peu la métaphore des grands paquebots de croisière qu'on a actuellement, c'est ça, j'imagine. Ouais. Et en fait, ils doivent capturer une espèce d'amas de robots des nanites, donc des robots microscopiques qui forment une sorte d'amas et qui engloutissent de la matière pour se dupliquer et du coup, grossir, quoi. C'est un peu une sorte de blob.
C'est The Blob, littéralement. Ouais.
Et donc, c'est une petite histoire sympathique où en fait, donc, Mariner, Telline, Jennifer, Tendy et Rutherford doivent essayer de comprendre ce que c'est et essayer de le capturer sans danger, sans lui faire de mal en tout cas. Et pendant ce temps-là, Boimler, lui, est en mission avec Ransom et Billups, en mission d'infiltration, parce que sur cette fameuse lune, il y a aussi une mission annexe. C'est retrouver un amiral disparu qui, en fait, a déserté, entre guillemets, dans le sens où, en fait, il veut plus retourner bouler. Il déserte son poste et il préfère boire des coups sur une espèce de plage, sur cette espèce de station un peu chelou. Donc c'est deux histoires parallèles, donc avec une qui est un peu plus importante que l'autre. Donc celle avec Jennifer et Mariner, c'est un peu le centre de l'épisode, et l'histoire avec Boimler,
ouais, avec un peu secondaire. Un petit build-up sur l'histoire de Boimler, parce que en fait lui, à la base, il est ravi de partir en mission. En plus, c'est un peu une émission happy few d'espionnage et tout machin. Et au final, il croise un officier junior comme lui, que je crois qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent.
Si, on l'a vu plusieurs fois.
Et il dit putain, mais machin là, c'est le numéro 1. C'est un malade, il arrête pas de me faire prendre des risques de fou et tout. Et on se rend compte qu'il a plus de bras et tout. Enfin, qu'il est vraiment, le mec le met dans toutes les situations de danger. Et du coup, Boimler, qui au départ partait super motivé, il part avec la part au ventre parce qu'il est persuadé qu'il va servir de char à canon pour le numéro 1, en fait.
Ouais. Alors moi, on va directement attaquer sur ce plot B, hein, si tu veux. Moi, j'ai pas du tout aimé ce plot B parce que... déjà, le concept de base d'un amiral qui déserte, parce qu'en fait, c'est ce qu'on verra à la fin de l'épisode. Le gars, il en a juste marre qu'on lui confie des missions de merde. Du coup, il déserte et puis il fait tout un... il se crée une sorte de secte. Enfin, c'est un peu nébuleux, son histoire. Mais en tout cas, ce que je comprends pas, c'est dans l'univers, dans la société de Star Trek, si t'es amiral, c'est bien. Mais si t'as plus envie d'être amiral, tu peux très bien démissionner et faire autre chose de ta vie, puisque t'as plus de contraintes matérielles, c'est-à-dire qu'en gros, t'es pas au chômage, t'as pas besoin de courir après l'argent pour vivre. Du coup, tu peux faire vraiment littéralement ce que tu veux. Et puis même au sein de Starfleet, j'imagine que tu peux faire autre chose que simplement être amiral. Tu peux peut-être te rétrograder, faire complètement autre chose, quoi. Donc, le concept même, moi, de cette mission, je l'ai trouvé complètement à côté de la plaque.
Le concept, c'est en effet Apocalypse Now, hein. L'illusion, elle est évidente. La première scène, on voit l'amiral quasiment noir et blanc, il est en train de se caresser la tête et tout, c'est vraiment une allusion à Apocalypse Now et à Brando, c'est une évidence. Bon, sur le fond, oui, non, t'as raison. Starfleet, on n'a jamais... en effet, jusqu'à preuve du contraire, t'es pas mis en cour martiale si tu décides de déserter au caucase. Donc la notion même de désertage est un petit peu étrange. Après, c'est juste que le mec n'en pouvait plus. C'est expliqué parce qu'il n'en pouvait plus, parce que les missions qu'on lui filait étaient des missions un peu pourries. Donc ça fait quand même une petite métaphore avec Boimler, parce qu'il a l'impression que lui aussi, on le prend dans des missions uniquement pour être un peu la cinquième roue du carrosse. Donc voilà, ça permet de faire cette petite métaphore. Après, ça casse pas trois pattes à un canard, faut être honnête.
Ouais, non mais moi, ça me dérange pas que ce soit un peu nul, mais ce qui m'embête surtout, c'est que je trouve que c'est complètement incohérent avec l'univers de Star Trek, quoi. Et en plus de ça, à la fin de l'épisode, bon, il y a toutes des scènes plutôt reloues. Moi, j'ai trouvé justement... Si, la première était plutôt marrante. En fait, tu sais où t'as Boimler, Billups et Ransom, ils sont dans une espèce de bar à cocktail sur une plage ou je sais pas quoi. Du coup, bah, ils enquêtent, ils essayent de trouver des pistes, donc de parler aux gens qui ont vu l'amiral avant. Bon, bref, une mission d'infiltration, une enquête, quoi. Et à un moment donné, on voit des galamites. Alors ça m'a fait plaisir parce que c'est la première fois qu'on les voit, si je me trompe pas. Tu sais, les galamites, c'est, il me semble, hein, vraiment si je me trompe pas, que c'est une race qui a déjà été évoquée par Dax parce qu'elle sortait avec l'un d'eux. Je sais plus, je crois que c'est Bashir qui était un peu dégoûté, elle disait, mais on voit leur cerveau. Et là, clairement, on voit deux galamites en train de boire un coup, et en fait, on se rend compte, effectivement, on voit leur cerveau qui est un peu luminescent, un peu exactement comme ce que décrivaient Dax et Bashir dans Deep Space Nine, sauf que c'était la seule vraiment évocation de leur physique, on savait pas du tout à quoi ils ressemblaient à part ça, et du coup, on se rend compte, ouais, c'est une espèce de lézard, enfin, c'est un truc vraiment très très chelou, et tu te dis, ouais, comment Dax, elle a pu sortir avec? Parce qu'ils font un peu peur, en vrai, c'est vrai qu'ils font peur. Et du coup, Boimler, il est un peu intimidé, donc du coup, il veut pas aller les interroger eux, il va en interroger d'autres. Et visiblement, c'est une espèce extraterrestre où tu ne peux pas boire ni manger devant eux parce qu'ils trouvent ça obscène. Pour eux, c'est pire que le sexe. Alors du coup, j'ai envie de me dire, mais pourquoi vous jouez au ballon à côté d'un restaurant et d'un bar? C'est un peu étrange, mais parce que c'était le restaurant, c'est un truc qui est ouvert sur une plage, donc de visu, il suffit qu'il tourne la tête pour voir des gens boire et manger, quoi. Donc, ok. C'est plein de petits trucs comme ça que je trouve dans cette partie d'histoire qui sont un peu...
Un peu fainéants.
Enfin, qui marchent pas,
quoi. Ça fait des gags, ça marche. Parce qu'en effet, au début, il lui demande d'interviewer des mecs qui ont l'air un peu méchants, mais comme... Avant, l'autre lui avait dit « Ouais, fais gaffe, il va te mettre en danger et tout. » Du coup, il préfère interviewer les autres en disant « Il va être moins dangereux. » Et au final, il manque de se faire découper en rondelles. Bon, voilà, ça fait un gag. C'est très Rick et Morty, quoi. Faut pas non plus aller chercher une cohérence incroyable. Il est très... D'ailleurs, cet épisode est très Rick et Morty, d'une manière générale, à tous les
niveaux. C'est vrai, mais... Alors justement, dans Rick et Morty, dans ce cas, t'aurais eu Rick... Ou Morty, peut-être même, qui aurait fait la réflexion de bah, « Dans ce cas, si ça te dérange de voir des gens manger et boire, joue pas au ballon à côté d'un restaurant. » Tu vois ? Et c'est ça qui manque. C'est alors soit c'est une certaine logique, soit effectivement une sorte de recul de second degré que tu fais transmettre par un personnage à travers une réplique, quoi, pour te dire « Oui, on sait que c'est débile. » Et justement, ça, je trouve que ça rajoute encore plus au gag que qu'un personnage se rende compte de ça et en fasse la remarque. Mais bref.
Après, ce qu'ils expliquent plus ou moins, c'est que c'est le fait de s'imposer finalement à l'autre, tu vois, qui est choquant. C'est un peu la différence entre aller dans une plage nudiste et voir des gens tout nus et aller dans une plage nudiste et avoir un mec qui se met devant toi et qui baisse son froc, tu vois. C'est pas tout à fait le même,
okay.
C'est pas le même délire, en fait.
Je dis acceptable. Je prends l'argument. Je trouve que ta métaphore est plutôt bonne.
Très belle.
Ouais, je sais pas si elle est belle, mais j'essaye de pas avoir d'image dans la tête maintenant que tu m'as dit ça. Donc ouais, et puis bon, après il y a cette histoire de donc il y a aussi ils trouvent une dénobulienne qui visiblement était proche de l'amiral et ils essaient de l'approcher sur une piste de ski. Bon, c'est pareil, moi j'ai trouvé que c'était pas très drôle que ça. Pas si drôle, quoi, l'histoire de Boimler qui pense qu'il va aller sur une piste facile et puis en fait non, ça sera une piste très dure et puis il fait une chute incroyable et finalement il meurt pas.
Il voit
la mèche qui vient de Starfleet. Bon, moi, j'ai pas trouvé que c'est... Enfin, vraiment,
c'est plus,
moi, toute cette partie-là m'ennuie.
Ouais, mais il y a surtout quand même un petit problème avec Boimler, c'est que c'est quand même censé être un peu le meilleur de tous, d'une certaine façon, mais qui est un peu gêné par sa timidité, par, tu vois, l'envie de trop bien faire et tout. Et le problème, c'est que des fois, je trouve que les scénaristes, pour créer des situations, en font vraiment un abruti. Et un mec qui, pour le coup, ne serait pas digne de devenir un officier supérieur. Et autant toi, tu pinailles sur plein de petits trucs, autant moi, l'un des trucs qui m'a gêné dans ce... Il y a deux trucs qui m'ont gêné dans cet épisode. Il y en a un dont on parlera plus tard, qui est lié à l'amiral. Et là, tu vois, c'est qu'il se retrouve par terre, il fait « Ah ouais, mais comme je suis de Starfleet, etc. etc. » Donc, en gros, en 10 secondes, il met à mal sa couverture, puisqu'ils sont censés ne pas être des agents de Starfleet, etc. Et ça, c'est de l'incompétence grave, en fait, si tu veux. C'est pas de la maladresse, c'est vraiment de l'incompétence. Et pour un truc comme ça, limite, tu pourrais ne jamais être nommé officier supérieur, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, c'est un petit peu gênant, je trouve, parce que ça abîme l'intellect du personnage. Tu vois ce que je veux dire ?
Tout à fait d'accord, et d'ailleurs Ransom lui fait remarquer que c'est vraiment une vraie bourde qu'il a faite, quoi. Et il le reproche.
Donc, mais tu vois, c'est une bourde, c'est une bourde d'imbécile, en plus. Parce
oui,
que autant tu vois, quand il mange devant les je sais pas quelle race, là
il
t'es sur
pas.
Une forme de maladresse. Il sait pas, bon, en plus, il dit qu'il savait, donc c'est un peu grave quand il pense. Mais c'est une forme de maladresse qui met. Mais là, c'est vraiment une connerie énorme. C'est vraiment grave, quoi. Donc ça abîme quand même un peu le personnage. Même s'il faut s'arrêter au gag, quoi.
Et donc ensuite, après ça, on a, il trouve l'amiral. Donc comme tu disais, effectivement, il y a une espèce de grosse allusion à Apocalypse Now, le film de Coppola. Et là, donc du coup, l'amiral dit, ouais, bon, il y a toute une histoire. Déjà, il les capture. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il va en faire une fois qu'a... Enfin, je veux dire, une fois qu'il a révélé ce qu'il faisait là, etc. Il va faire quoi? Il va les garder attachés pour toujours? On ne sait pas trop. Et puis bon, finalement, Boimler, il va faire genre, il est avec l'amiral, il va déserter, et finalement non, il va s'enduire le corps d'huile, et comme du coup il est glissant et nerveux, il arrive à échapper à tout le monde, et là l'amiral il va dire, butez-les à ses sous-fifres. Et les sous-fifres ils disent, non, nous on est des gars sympas, on est des gars normaux, on voulait bien te suivre dans ton délire, mais là, ma femme elle m'attend, j'y vais. Et là tu te dis, ok, donc t'as un amiral, le mec il déserte, parce qu'en fait, en gros il en a marre de bosser. Et ils disent, enfin, tu vois, c'est, moi, je comprends pas. Vraiment, ce plot-là, je le comprends pas du tout.
Ouais, je crois qu'il faut en rester à Apocalypse Now, point final, quoi. Le problème, du coup, j'avance un petit peu, Guigui, c'est la fin. Parce que autant le fait qu'ils veulent les tuer et tout, ok, on est dans le gag parodique de film, etc. C'est un espèce de scary movie, ok, whatever. C'est plus qu'à la fin, on se rend compte qu'il est redevenu amiral et qu'il va être en charge de quelque chose qui vient plus tard dans l'épisode. Et tu te dis juste. Là c'est pas possible, là ça marche pas parce que il y a 5 minutes il essayait d'assassiner littéralement des officiers de Starfleet, quoi. Et tu vois, c'est un peu là, moi, où ma suspension d'incrédulité s'arrête, en fait. C'est pas sur des détails, mais c'est plus sur des trucs où si tu décides de faire des trucs avec tes personnages, il faut quand même l'assumer, tu vois. Si Boimler c'est un imbécile, ça peut pas être le meilleur des Lower Decks. Et si l'amiral c'est un assassin, il peut pas redevenir amiral comme si de rien n'était 5 minutes plus tard. Moi, c'est le seul truc que je reproche un peu à la série en général, mais particulièrement à cet épisode, je trouve que c'est assez flagrant.
Ouais, je suis assez d'accord. Alors, du coup, on va parler de l'autre histoire. Alors, moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant, le Jennifer qui se pointe comme ça auprès de Mariner en faisant comme si elles étaient encore ensemble, alors que pas du tout. Et qu'en fait, on se rend compte à la fin que c'est Jennifer qui faisait semblant exprès pour foutre un peu la honte et mettre un peu la pression sur Mariner pour l'obliger à rompre, en fait, de le formaliser, de le verbaliser vraiment, parce que ça n'a pas été vu, parce que Mariner, elle a fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle a fait un peu, elle voulait faire la grande et se dire que son charisme. Voilà, ça, elle était un peu lâche en faisant genre, c'est bon, je passe à côté de toi, je te calcule, et que ça suffit pour elle, visiblement, pour se sentir larguée. Et du coup, Jennifer, elle a raison là-dessus, même si c'est vrai que c'est un moyen un peu quand même, un peu cramé de la tête quand même, malgré tout, parce qu'elle le faisait vraiment bien, elle allait vraiment loin dans cette histoire-là, que toute une journée à essayer de la câliner, de lui faire des bisous et tout, c'était un peu étrange.
D'autant qu'ils disent que ça fait un an qu'elles se sont. Moi, j'ai trouvé ça génial, ça, ils t'expliquent que ça fait un an qu'elles se sont pas parlé, en fait, quoi. C'est assez fou, quoi.
Et c'est vrai, puisque Jennifer, elle disparaît. Tu sais, c'est quand tout le monde pense que Mariner avait balancé des saloperies à une journaliste, alors qu'en fait, c'était pas elle du tout. Et que du coup, tout l'équipage lui avait un peu tourné le dos et l'avait envoyé sur la base 80, dont on n'arrête pas de parler dans cette saison-là.
Oui, c'est bizarre, ça.
C'est bizarre,
ça revient à tous les épisodes.
C'est pas bizarre parce que le titre de l'épisode 5, ça sera la base 80, je crois, c'est le 5 ou 6.
D'accord,
ok. Voilà. Et donc, ouais, Jennifer, depuis ce moment-là, qui avait donc pris le pli du reste de l'équipage, c'est-à-dire de penser que c'était Mariner la coupable et de lui tourner le dos, on l'avait plus revue. Et du coup, c'est pas mal de pas oublier ce personnage-là, qui est un personnage très secondaire, mais quand même, moi, j'aime bien, moi, revoir des personnages et de voir qu'on les a pas oubliés et que la conclusion de Jennifer aurait été trop abrupte, parce que quand même, dans la saison 3, elle est assez présente et du coup, c'est bien. Donc, c'est la dernière fois, sans doute, qu'on voit ce personnage-là parce qu'elle part après sur un autre vaisseau et du coup, je trouve ça très bien. J'ai beaucoup aimé aussi, moi, l'histoire avec Téline, qui est fan d'un musicien extraterrestre qui fait, je sais pas quoi, qui est une espèce de cube qui vibre, etc. J'ai trouvé que c'était très bien de voir qu'elle est fan de quelque chose et son enthousiasme fait plaisir à voir. Enfin voilà, j'ai trouvé que toute cette histoire-là était sympathique.
Moi j'ai adoré aussi, j'ai trouvé que les personnages étaient super attachants. Tu vois, là typiquement j'ai trouvé que Mariner, elle est à la fois un peu connasse, mais en même temps, tu as envie de lui pardonner, quoi. Tu vois, c'était un peu un plan loose et tout, machin, et tu vois. Et à la fois, elle s'enfonce et tout dans le truc. J'ai trouvé que l'histoire, ça cassait pas trois patins à un canard, mais j'ai trouvé qu'elle fonctionnait bien. Ça avance assez vite, c'est assez rythmé, les scènes d'action sont pas mal. De revoir Tendy, évidemment, faire du Tendy, c'était plutôt sympathique. Donc l'un dans l'autre. Ah oui, puis j'ai adoré, putain, décidément, c'est en train de devenir mon personnage préféré. Depuis le début de la saison, le personnage Vulcain qui se tape un délire, qui se tape un délire sur l'espèce de groupe de rock là, qui est, enfin, je sais pas vraiment du rock, mais je sais pas ce que c'est. Et le personnage qu'elle rencontre à la fin, j'ai trouvé qu'il était super charismatique, mais vraiment, vraiment super charismatique. J'ai adoré le personnage où t'apprends qu'il apprend la méditation vulcaine et tout. J'ai vraiment été, je crois que c'est ce que j'ai préféré dans l'épisode. Ça a été ces passages qui sont liés à cette histoire de concert qui a lieu à ce moment-là.
Et attends, je viens de recevoir un message. J'ai l'impression que Marie-Paul est là. Je vais la téléporter à bord. Salut Marie-Paul, comment ça va ?
Salut, ça va bien et vous ?
Ça va. Ta mission s'est bien passée ?
Très bien, merci. Je suis un peu en retard, désolé.
Oui, pas de souci. On était en train de terminer notre revue sur l'épisode de la semaine. On était en train de parler justement de Téline et de son admiration pour un musicien qui, lui, est admiratif de la culture vulcaine, et c'était plutôt sympa. Et donc, ouais, c'est un arc de... une partie de l'histoire de l'épisode qui est vraiment sympa. Et moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est un peu l'espèce de semi-twist, c'est-à-dire, comme on en parlait en off avec Romain, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, justement, cette histoire de l'univers K-pop, etc., parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais pour une partie du podcast numéro 38 du Cadran Pop, j'avais fait un petit sketch avec deux acteurs du casting français de Lower Decks, où dedans, j'avais expliqué que si le Cadran Pop s'appelle le Cadran Pop, c'est parce que c'est une zone de la galaxie où il y a plein d'univers alternatifs qui pop à droite à gauche, et c'est exactement un peu ce qu'on a là, donc du coup, moi, ça me fait plaisir.
Journal de bord de la capitaine du Cerritos. Date stellaire 230820. Cela ne fait que quelques heures que nous sommes arrivés sur Deep Space 57. Et déjà l'envie est forte de reprendre mon vaisseau pour m'en aller loin de ce trou perdu de la galaxie. Étrangement, on appelle même ce secteur le quadrant pop, parce qu'il paraîtrait que des portails multidimensionnels s'ouvriraient brièvement ici ou là. Mais bref, cette station est étrange. La plupart des ponts de commandement ressemblent à s'y méprendre à ceux qu'on a sur les vaisseaux de classe California. Alors j'avoue que c'est flatteur de se sentir ainsi envié, mais ça montre surtout qu'ici tout est organisé n'importe comment.
Et ça me fait encore plus plaisir de voir que l'intrigue de l'épisode 1 de cette saison 5 continue, et finalement on a un fil rouge qui va durer, j'imagine, toute la saison, et que c'est fait, c'est articulé d'une manière plus homogène, plus organique dans cette saison 5 que ça l'avait été dans la 4 avec ce fameux fil rouge et des scènes qui apparaissaient des fois, on comprenait pas trop pourquoi. Et là, effectivement, donc on a un mini vaisseau minuscule qui vient d'une autre dimension où là tout est plus petit, et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Du coup, avant de demander à Romain ce qu'il a pensé de ce twist-là, Marie-Paul, toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode du jour ?
Ouais, c'était cool, j'ai trouvé ça... Déjà, ça fait plaisir de retrouver Lower Decks, ça fait plaisir de retrouver une narration cool, dynamique, chouette, qui te perd pas en route, qui se termoie... à terme-moi pas pendant des heures et des heures sur des trucs qui nous importent peu au final. L'action du jour était vraiment marrante. L'histoire B avec le quiproquo qui n'en était pas un au final entre Mariner et sa meuf pas meuf était plutôt bien amené, c'était rigolo, c'était obligé Mariner à parler de ses sentiments, je trouvais ça sympa.
Ouais, t'as raison, et d'ailleurs justement, c'est un truc que j'ai pas dit, dont on parlait aussi en off avec Romain, c'est qu'effectivement on perd pas de temps, mais justement quelque part pour moi c'est un peu une frustration parce que le plot de l'épisode 1 est sur les dimensions, enfin... sur ces espèces d'univers parallèles qui pop, et l'histoire de la planète qui rejoint la Fédération et qui devient anticapitaliste, j'aurais préféré que ce soit des épisodes pleins que sur là-dessus, et pas partagés avec l'intrigue de Tendy, et donc d'avoir 20 minutes pleines sur cette histoire d'univers parallèle et 20 minutes pleines sur cette planète qui peut se passer d'argent, quoi. Parce que je trouve que les histoires sont vraiment intéressantes, enfin, les idées de base sont vraiment intéressantes, mais comme du coup on passe qu'à peu près 10 minutes sur chaque histoire, ça reste un peu en surface, et finalement on aimerait en savoir plus.
Ouais, après moi j'ai trouvé que c'était une bonne... ils amenaient bien ça, et c'était... Moi ça m'a largement suffi, je me dis aussi qu'il y a moyen bien qu'on ait d'autres. Bah, le petit vaisseau, effectivement, à la fin, le tout petit vaisseau à la taille du Namib, et c'était cool. Je pense qu'ils vont arriver à faire d'autres clins d'œil, d'autres fils rouges avec quoi. Mais il aurait fallu faire un épisode entier sur la quête de Tandy avec sa sœur. Donc bon, je sais. Ah si, je trouve que le rythme était bien, c'était efficace, ça replongeait aussi direct dans l'action, on se posait pas de questions et il y avait des nouvelles choses qui arrivaient et c'était à la fois c'était marrant aussi cette vie parallèle donc, je sais pas, moi j'étais plutôt satisfaite.
Bah, en fait pour moi c'est juste l'expression de ma frustration de se dire qu'il n'y a pas assez d'épisodes de Lower Decks.
Il n'y en aura jamais assez.
Il n'y en aura jamais assez, exactement. Comment t'as trouvé, toi, le plot B avec Boimler dans cet épisode de cette semaine ?
C'était pas mal. C'était un peu gros sabot, c'était un peu... On avait bien compris que c'était pas pour le mettre... que ce soit lui qui affronte les dangers, mais que parce qu'il était... C'était un mec fiable et sur qui on peut compter. C'était rigolo. C'était pas dispensable d'en faire autant, quoi. On aurait pu en faire un tout petit peu moins.
Ouais.
Mais c'était marrant quand même de le voir. Enfin, je sais pas, vous en avez pensé quoi, vous ?
Bah, moi, j'ai pas trop aimé et Romain était plus clément que moi.
Moi, je suis fan de Apocalypse Now, donc j'ai compris, si tu veux, où il voulait en venir. Après, c'est vrai que c'est un peu problématique, ce personnage qui devient à moitié un assassin et qui redevient amiral à la fin de l'épisode. Tu vois, ça va un peu vite d'un extrême à l'autre, quoi.
Et sinon, toi, Romain, t'as pensé quoi de ce twist avec ce mini-vaisseau intrépide ?
Bah, comme tu l'as dit, on retrouve un peu ce qu'ils font à chaque saison de Lower Decks, c'est-à-dire nous donner à chaque épisode un petit indice de ce qui va devenir le fil conducteur de la saison et le gros arc de la fin de l'épisode. Mais là, comme tu le dis, je trouve que c'est mieux amené parce que c'est lié à l'ADN de l'épisode, c'est vraiment lié à l'intrigue, en l'occurrence, là, de coup, on se rend compte que c'est ce vaisseau qui contrôle les nains. C'est très différent de la saison dernière où à la fin de l'épisode tu voyais un vaisseau se faire capturer et ça n'avait rien à voir avec, ou au début de l'épisode d'ailleurs peut-être, et ça n'avait rien à voir avec le reste de l'épisode quoi. Donc au moins c'est beaucoup plus organique et je trouve que pour l'instant ils maîtrisent mieux le truc et ça, pour le coup, ça donne vraiment envie de voir la suite quoi.
Et d'ailleurs, pour te dire la vérité, j'ai cru à un moment donné qu'on aurait pas la bonne Mariner une partie de la saison. Moi, je m'étais dit qu'il n'y aurait pas de retournement et que l'échange des Mariners serait effectif pour plusieurs épisodes.
Ouais, ça aurait pu, en effet.
Et sinon, Marie-Paul, est-ce qu'il y a des sujets, parce que là, en fait, on est en train de terminer, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as relevées dans cet épisode dont tu aimerais parler ?
Bah, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y avait, on reste vraiment sur la... Malgré la meuf de Mariner qui s'incruste, on reste sur la cohésion et que de groupe et qu'ils travaillent bien ensemble. Ça reste toujours chouette. C'est marrant quoi. On s'attend, ça reste du Lower Decks, donc ça reste. Il y a quand même une dimension un peu gaguesque. Qui reste là, c'est pas du Star Trek sérieux, entre guillemets, même s'il y a quand même plein de passages où c'est du Star Trek sérieux, je vais me faire taper sur les doigts par tout le monde.
Non, je pense que t'exprimes, ouais. Ça, c'est juste, ouais.
Et du coup, je trouve que ça marche toujours bien, on est toujours, j'ai toujours grand plaisir à allumer la télé et à regarder un nouvel épisode, contrairement aux dernières séries où malheureusement on commence à se lasser, quoi. Enfin, encore que je suis dans Prodigy dans la saison 2, donc et
t'en es où ?
Même après tout le monde, j'en suis à l'épisode 5.
Ah, bah ça va, c'est tranquille, ouais. Au début, ça va monter, ouais. Après.
et vous aviez raison, c'est vraiment aussi bien que Lower Decks, hein. Dans une autre mesure et un autre...
Lower Decks pour le coup.
C'est complètement différent, moi j'aime,
oui,
autant
ça,
l'un que l'autre.
Je suis d'accord, c'est que l'un est plus pur comique. Et tandis que y a quelques incohérences que tu retrouveras pas dans Prodigy pour le coup.
Mais au cinquième épisode, c'est encore, le meilleur est largement à venir, quoi.
D'accord, bah j'ai hâte.
Et justement, une question qu'on se posait, on faisait un peu de theory crafting par rapport à l'issue de cette saison 5, qui sera aussi l'issue de la série elle-même. Qu'est-ce que tu penses qu'il va advenir justement des personnages et comment va se terminer la série selon toi?
Oh, c'est trop tôt pour le dire.
Ouais, tu trouves ?
Ouais. Soit ils montent encore en grade, soit ils sont dispatchés sur d'autres vaisseaux, soit ils restent là et on espère qu'un jour il y a une suite quelconque d'une manière ou d'une autre, ou qu'on les recroise en mode spin-off dans une autre série. Mais bon, les annonces dernières qui ont été faites par Paramount ne sont pas forcément très encourageantes. Et on a plus l'impression qu'ils resserrent les vis plutôt que de s'imaginer autre chose qu'une fin fermée et qui donne pas d'espoir de revoir les persos. Sauf peut-être, ce serait bien effectivement de revoir du live action, mais
après, quand un truc qui n'est pas fermé, ça peut très bien arriver 20 ans après. Regarde Star Trek Picard, c'est bien arrivé 20 ans après Star Trek Nemesis. Donc, voir. D'ailleurs, les acteurs, le casting qui joue donc, le noyau dur des personnages de Lower Decks ont dit que s'il le fallait, ils joueraient ces personnages-là toute leur vie. Donc, je pense que maintenant, quelqu'un qui signe pour un rôle dans Star Trek, un personnage principal, sait que potentiellement, il risque vraiment... Ça risque d'être peut-être son dernier rôle, en fait, qui risque de le jouer jusqu'à la fin de sa vie, quoi.
Oh, bah, je leur souhaite pas. C'est très bien, mais je leur souhaite qu'ils fassent plein d'autres,
oh bah
d'autres
oui.
choses cool aussi, quoi. Mais...
Ça veut pas dire qu'ils feraient pas autre chose, mais ça veut dire que ce rôle va les suivre, quoi.
Sauf si tu joues dans les films de J.J. Abrams où là tu attends que ça soit le rôle jusqu'à la fin de ta vie, mais tu ne fais qu'attendre, en fait, ce n'est pas le rôle.
Exactement, ouais, ouais. Bah, sauf Chris Pine et Zoe Saldana.
Voilà, eux, ils attendent.
J'aimerais juste qu'ils jouent pas trop sur la nostalgie, tout ça, et qu'ils oublient
oh,
pas
oui,
aussi
bien sûr.
Les autres personnes qui sont pas forcément. Des Trekkies depuis des années et des années.
Bah là, je suis content parce que justement, en termes de clin d'œil, il n'y en a pas eu trop. À part quelques name-dropping par-ci par-là, quoi. Naomi Wildman et comment il s'appelle, le détective que joue Picard, Dixon Hill. Bah, à part ça, c'est assez léger, quoi. J'ai pas le souvenir
oui.
D'autres clins d'œil, quoi.
Non, je parlais pour si suite il y a ou si
ah, oui.
dans 20
ah,
ans
sûr.
Ou quoi, ils l'ont déjà fait sur Picard, m'a pas
ah,
la
oui, mais oui, mais dans 20 ans, ouais. En 2045, la nostalgie ne fera plus recette, donc ils arrêteront de faire ça à Hollywood.
Mais 2045, il y aura des Terminators, il y aura plus
ah,
Internet.
Ah, c'est vrai, merde, il y aura Skynet, c'est
ah,
vrai.
Oui, il y aura
déjà
Skynet.
Que les franchises ne font plus recette en ce moment, donc ça va être compliqué en effet.
Ouais.
Vous avez quelque chose à dire pour conclure?
Ben non, vivement la semaine prochaine pour le prochain épisode.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Et toi, Romain?
Ouais, moi aussi, j'ai du mal à m'expliquer, mais je m'ennuyais beaucoup l'année dernière, et là, je suis vraiment content de les retrouver, les petits gars. C'est peut-être parce que je mate que des dessins animés japonais en ce moment, qui sont quand même assez... je mate du Gundam, en l'occurrence, qui sont quand même assez dark et pas trop dans le fun. Donc peut-être ça me fait du bien de prendre un peu de recul et de retourner sur de la comédie. Mais je sais pas, je prends plus de plaisir que l'année dernière, après 3 épisodes. On verra si ça continue tout le reste de la saison.
Ah, touchant du bois, je suis aussi de votre avis. Hein. Je suis très content de ce début de saison 5 et j'ai hâte de voir la suite. Du coup, bon, on va terminer ce podcast-là, mais pas avant de faire un petit point promo ou reco. Marie-Paul, est-ce que tu as quelque chose à nous promouvoir ou à nous recommander ?
Écoutez, je vais vous promouvoir mon bouquin sorti le mois dernier, en octobre, qui s'appelle Garçonne, qui est un bouquin à la fois de bande dessinée, d'histoire de l'art, sur la mode et les autrices de bande dessinée des années 1920. Qui remet en lumière des autrices qui donc avaient été largement oubliées, américaines pardon, j'ai oublié de préciser, les autrices américaines, qui étaient largement oubliées par le milieu, les professionnels qui parlent, les historiens, ne pas les citer, qui ne parlent que des hommes artistes et non pas des autrices qui ont existé depuis le tout début. Je suis ravie de son accueil, je trouve le bouquin très beau, Laura qui a bossé dessus a fait un travail formidable.
Et on peut trouver ça j'imagine dans toutes les bonnes librairies.
Exactement, et vous pouvez le commander si elles ne l'ont pas.
Ok, super, bah bravo en tout cas. Et toi Romain ?
Moi c'est un livre qu'on ne peut pas trouver dans toutes les bonnes librairies, je voulais le dernier Spirou qui est vraiment excellent, qui s'appelle Spirou et la gorge. Non, c'est pas vrai.
Heureusement que j'ai pas ma caméra parce que je crois que je t'aurais fait beaucoup de signes d'injure. C'est pas très drôle.
Quel troll.
C'est du trolling, modèle expert. Non, bah comme je l'ai dit, en ce moment je regarde les dessins animés Gundam que je prends dans l'ordre. Alors c'est vraiment s'attaquer à un monstre. Hein. Star Trek à côté de Gundam, c'est presque digeste si tu veux. Mais enfin, je suis quand même vraiment surpris. C'est quand même des dessins animés qui sont assez anciens. Hein. Le premier Gundam, il date de la fin des années 70 et c'est quand même des putains de dessins animés. C'est super bien animé, c'est super bien écrit. Il y a des scènes d'action qui sont absolument hallucinantes. Alors voilà, je ne saurais vous conseiller de tout voir Gundam, ça n'aura aucun sens. Mais si à l'occasion, vous pouvez regarder au moins la première série, ça, c'est pas très long, il y a une cinquantaine d'épisodes de 20 minutes. Et je pense que je réalise que j'étais quand même passé à côté d'un pan de la culture nippone et de la culture animée en général. Et je suis vraiment, vraiment content de découvrir ça, même à 40 ans passés.
Ok, bon bah très bien, c'est noté. Moi, pour ma part, j'aurais pu vous parler de Dragon Ball Daima ou du remake de Ranma 1/2 parce que c'est vraiment très bien. Et finalement, je vais vous parler d'Agatha sur Disney+, que j'ai terminé là. Je suis vraiment encore dedans. En fait, je fredonne une certaine chanson. J'ai trouvé que la série était vraiment exceptionnelle, c'est-à-dire que pour moi, c'est la meilleure série du MCU largement. Alors, vous me direz, c'est pas dur, mais si, quand même, il y a quand même eu des bonnes séries. Il y a eu Loki, il y a eu WandaVision. Mais aussi bien Loki que WandaVision n'étaient pas des séries parfaites tout du long. Il y avait quand même beaucoup de déceptions, il y avait des ventres mous, il y avait des incohérences, enfin, il y avait des choses un peu qui coinçaient un peu. Alors que la série Agatha, là, je la trouve parfaitement maîtrisée du premier épisode au 9e, sans aucune déception. Et en plus de ça, la série, elle monte en puissance. Au fur et à mesure qu'elle arrive à son dénouement. Et j'ai été vraiment cueilli par les choix artistiques, par la DA, par le scénario, les dialogues, le casting, enfin tout, quoi. Vraiment, du MCU comme ça, moi, je suis partant pour en reprendre. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que Disney+ a compris, enfin, Marvel Studios ou Marvel Télévision, je ne sais plus s'ils se sont rescindés en deux ou pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont enfin compris comment il fallait écrire une série télé, et là je trouve que ça marche très bien.
J'ai un peu l'impression que c'est l'exception qui confirme la règle, mais elle était vraiment super à regarder.
Ouais. Et alors moi j'ai pas vu la série, mais j'en entends que du bien aussi de tous mes potes et des différents critiques. Et c'est marrant, c'est quand même le gros point commun entre ces trois franchises que sont Star Trek, Star Wars et MCU depuis quelques années. C'est que finalement c'est des projets vraiment random que tu sens qui ont été faits un peu à l'arrache, avec beaucoup moins de pression des studios que les autres projets qui s'en sortent beaucoup mieux que les autres, quoi. Et c'est assez impressionnant quand même de voir cette constance dans les trois franchises.
Ouais, c'est vrai que c'est pas les projets qui étaient les plus attendus qui finalement s'en sortent toujours le mieux. Ouais, c'est effectivement, ça. Je pense que c'est simplement que, c'est comme ce qu'on dit à chaque fois, c'est que les grands pontes, les grands cadres, ne mettent pas le nez dedans et laissent un peu les artistes travailler tranquillement. Et quand ça arrive, ça donne des produits de qualité, quoi. Qui ne sont pas assez vus, et c'est bien dommage parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. En tout cas pour ceux et celles qui aiment les bonnes séries télé. Et bien sur ce, on va se quitter là, et puis on va se dire à la semaine prochaine. Alors je sais pas qui sera de garde la semaine prochaine, ça sera la surprise. J'ai oublié en fait, tout simplement. Donc je vais vous souhaiter à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde.
Ciao tout le monde.
Salut.
Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Land Rider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Land Rider, L-A-N-D plus loin, R-I-T-E-R, sur vos plateformes d'écoute préférées.
Bonus.
Trax.